Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, les centres d'apprentissage du millénaire de la ville d'Ottawa soutiennent les personnes qui se tiennent à la lisière du fossé numérique.
Ce sont des salles informatiques qui sont là pour les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, à Internet ou qui ne peuvent pas payer les coûts de l'impression.
500 citoyens de Kedgewick et de Saint-Quentin-Nouveau-Brunswick mettent l'épaule à la roue pour soutenir un enfant atteint d'une maladie orpheline.
C'est beaucoup plus difficile avec Thomas. On a eu des mauvaises nouvelles trois semaines et demie passées, fait que ça fait du bien, ça fait comme un petit pansement sur le cœur de savoir que les gens sont encore là après 7 ans pour nous supporter, puis faire des événements comme ça pour nous montrer qu'ils sont là pour nous autres.
Le mois de la francophonie est souligné au Canada jusque dans ses plus petits retranchements. Le café nord-ouest de Falaire souffle ballons et confettis.
Les entreprises qui sont comme nos partenaires dans cette activité sont toutes des entreprises où on peut se faire servir en français dans la communauté.
Puis on termine notre course à Fermont, dans le Grand Nord du Québec, où des minières et des communautés autochtones Innu œuvrent main dans la main en faveur du développement économique.
Vous savez, j'ai fait la tournée des 55 communautés, incluant les 14 villages nordiques. Très heureux de voir la façon dont se développe Fermont présentement, la présence des Innu. Je ne veux même pas dire la présence, je veux dire qu'ils font partie de cette relance-là, puis on le sent.
Ceci est plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
La ville d'Ottawa vient d'inaugurer un nouveau programme destiné à combler le fossé numérique auquel font face différentes catégories de citoyens. Des ordinateurs et des ressources gratuites ont été mises à disposition des citoyens à travers la ville d'Ottawa. En fait, 13 salles informatiques ont été aménagées dans ce qu'on nomme les centres d'apprentissage du millénaire, lesquels accueillent des citoyens qui veulent apprendre à se familiariser avec le numérique et à utiliser les ordinateurs et Internet. Ces centres qui offrent aussi des séances d'orientation et parfois une aide individuelle, eh bien, le projet a du succès. Les centres d'apprentissage du millénaire qui ont reçu pas moins de 34 000 visites en 2022, et c'est en augmentation de 134% par rapport à l'année précédente, en dépit du fait que l'initiative a été peu publicisée. Marie Hillet en parle avec Lyoto Philogène, coordonnateur du programme au Centre des services communautaires de Vanier, un quartier très francophone d'Ottawa.
Un programme pour combler le fossé numérique qui existe à Ottawa. Ça s'appelle les Centres d'apprentissage du millénaire. 13 salles informatiques ont été aménagées à travers de la ville d'Ottawa, soit dans des maisons communautaires, soit à la réception des centres communautaires. Ces salles sont essentielles pour certaines personnes et familles. Lyoto Philogène, coordonnateur du programme au Centre des services communautaires de Vanier.
Ce sont des salles informatiques qui sont là pour les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, à Internet ou qui ne peuvent pas payer les coûts de l'impression. Parce que encore en 2023, le coût des instruments informatiques est encore très dispendieux pour certaines familles. Dans l'époque là où on vit, presque tout se fait soit sur Internet, soit c'est la paperasse qu'il faut remplir sur un ordinateur et certains n'ont pas ces moyens. Alors c'est pour ça que ce programme est là.
Dans le cadre du programme, des ateliers sont offerts.
On apprend aussi un bon nombre de personnes dans la communauté comment utiliser un ordinateur, comment utiliser Microsoft Word. Ça, c'est beaucoup de services qu'on offre. En 2022, on a eu plus de 35 000 visites dans nos sites MSC à travers les 13.
Depuis la fin de la pandémie, les demandes envers ce programme ont augmenté et les nouveaux arrivants ne sont pas forcément au courant de son existence, explique M. Philogène.
On a remarqué qu'il y a plus de personnes qui en ont besoin, qui ne sont pas encore au courant, qui ne sont pas imbus de ce programme. Parce que dans notre atelier de Word, on avait 13 participants et d'habitude, on en a 5 et c'était que des nouveaux arrivants. À Vanier, dans notre centre d'emploi, et les consultants en emploi m'ont partagé qu'ils ont plusieurs chasseurs d'emploi qui ne peuvent pas utiliser un ordinateur, qui ne peuvent pas utiliser Microsoft Word. Présentement, on est en train de réaliser qu'il y a une demande et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on essaie de promouvoir le programme pour que ces personnes puissent avoir accès à ce programme.
Un nouvel atelier bien spécifique vient d'être développé dans le cadre du programme.
Dans notre communauté, que ce soit les nouveaux arrivants, les jeunes et les aînés, ils sont très susceptibles à se faire frauder ou scammer. Et on a vu tout type de fraude. On a vu des fraudes par rapport à des documents d'immigration. On a vu des fraudes du côté des aînés. Très souvent, il y a certaines personnes qui les contactent en se faisant passer pour leurs petits-enfants. C'est même pas un membre de la famille. Et on a aussi remarqué que les jeunes se font scammer très souvent sur les médias sociaux. Alors, on a préparé cet atelier pour, on va dire, pour leur donner des astuces et pour prévenir.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Prenons la direction du Nouveau-Brunswick où on organisait le 10 mars dernier une partie de hockey bénéfice pour venir en aide à un jeune garçon atteint d'une maladie orpheline. Thomas Thériault serait le seul enfant du Nouveau-Brunswick à être atteint du syndrome de Zellweger, une maladie qui l'a rendu aveugle. Il est aussi sourd et incapable de marcher et ses parents sont à bout de souffle. Deux acteurs importants du sport de la région de Kedgwick et de Saint-Quentin, Maxime Caillouette et Denis Couturier, ont eu l'idée d'organiser ce match bénéfice opposant amicalement les joueurs des Castors et du Dynamo et les Dragons de la polyvalente AJ Savoie. L'idée a fait recette. Près de 500 personnes ont assisté au match. 10 320 $ ont été ramassés, récoltés, remis à la famille de Thomas Thériault. Pour Thomas et ses parents, la dernière année a certainement été des plus difficiles. La mère de Thomas, Mme Marie-Michel Arpin, se raconte au micro de Maxime Gauthier alors que son père, Jean-Roch Thériault, avait enfilé ses patins pour se joindre à la partie entourée de ses amis et coéquipiers.
Je pense que c'est dur de mettre les bons mots sur une soirée comme ça parce que dernièrement, c'est beaucoup plus difficile avec Thomas. On a eu des mauvaises nouvelles trois semaines et demie passées. Fait que ça fait du bien, ça fait comme un petit pansement sur le cœur de savoir que les gens sont encore là après 7 ans pour nous supporter puis faire des événements comme ça pour nous montrer qu'ils sont là pour nous autres.
Une maladie très rare avec laquelle Thomas vit depuis ses premiers mois. Aujourd'hui, il a 7 ans. La famille a dû vivre des moments éprouvants durant les dernières années. La mère de Thomas, Marie-Michel Arpin.
Il a été hospitalisé il y avait 6 mois, puis ça a pris 1 mois d'hospitalisation au CHUL à Québec. C'est là qu'on a eu la mauvaise nouvelle. À ce moment-là, ils nous ont fait rencontrer les soins palliatifs. Pour la première fois, ils nous ont dit que Thomas était atteint du syndrome de Zellweger, puis eux autres, c'était un des premiers qui était diagnostiqué au CHUL, même si c'est quand même un très grand hôpital. Eux autres au CHUL, ils n'étaient pas vraiment spécialisés dans cette maladie-là. Fait que quand ils nous ont fait l'annonce, ils nous ont dit que Thomas, il restait juste une couple de mois à vivre. Fait qu'à ce moment-là, il était rendu à 7 mois. Fait qu'on est sortis de là, on était complètement démolis.
10 320 $ ont été amassés durant l'événement, ce qui aiderait à couvrir quelques frais reliés à la maladie de Thomas, mais aussi pour la recherche dans l'espoir de trouver un traitement.
Quand on ramasse des sous, il y a des fois qu'on va les offrir au laboratoire de recherche à Montréal du Dr. Breverman. Fait que elle là-bas, à chaque fois qu'on y va, pratiquement, on va rencontrer les gens au laboratoire. Puis c'est une maladie qui est tellement rare. Il y a peut-être 230 enfants environ dans le monde entier. Les spécialistes, ils connaissent les enfants. Fait qu'ils nous rencontrent dans un hôpital qui est énorme, là, à Montréal, au Centre universitaire de santé McGill. Puis tu les rencontres, puis ils savent là, que c'est Thomas, là. Puis ça fait peut-être un an qu'ils ont pas vu, mais ils sont tellement proches, puis ils ont leurs photos, puis ils savent comme on est en train de travailler pour Thomas sur ce projet-là, tu sais. fait que c'est du monde qui ont vraiment la maladie à cœur. Ils travaillent vraiment fort pour trouver un remède.
Marie-Michèle Arpin, maman de Thomas Thériault atteint du syndrome de Zellweger, s'investit grandement à la cause depuis le tout début, tellement qu'il lui arrive de recevoir des commentaires empreints de jugement. Voici ce qu'elle répond aux gens qui critiquent les actions de sa famille.
Je pense que tu sais jamais tant que tu l'as pas vécu. Puis je pense qu'ils peuvent se compter chanceux de pas savoir qu'est-ce que c'est. Parce que je souhaiterais pas ça à personne de vivre ça, malgré que la maladie à Thomas nous a pas juste apporté du négatif. On a quand même eu beaucoup de positifs. On a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, tu sais, parce que leurs enfants ont la maladie aussi. Fait que on a juste besoin de se regarder, puis on sait. On se comprend, on sait par quoi qu'ils vivent, ils savent aussi. Puis c'est quelque chose que même des fois, les personnes qui sont vraiment proches de nous autres ne savent pas, parce qu'une fois que tu es rendu à la maison, tu n'as aucune idée. C'est quoi? Parce que toi, tes enfants sont en santé ou peu importe, toi, tu es en santé. Tant que tu ne vis pas ça, tu sais pas. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà eu un cancer. De près ou de loin, tu sais, ton voisin, ton ami, ta sœur, tandis que la maladie à Thomas, personne connaît ça. T'sais, tout de suite, il est le seul au Nouveau-Brunswick. Ils sont peut-être 25 au Canada. Fait que personne n'en parle. Fait que si nous autres, on n'en parle pas, si nous autres, on fait pas de recherche, ça avancera jamais. Puis, on est allé trois fois à des conférences sur la maladie de Thomas. Puis la première, j'oublierai jamais, il y a un des spécialistes qui s'est levé en avant de tous les parents puis qu'il a parlé. Il nous a dit, si vos enfants sont encore en vie aujourd'hui, c'est parce que les parents avant vous autres se sont levés. Puis ils ont fait des levées de fonds, ils ont parlé fort, ils ont écrit des messages sur les réseaux sociaux, ils ont été à la télévision, ils ont été à la radio. C'est à cause d'eux autres que vos enfants sont encore là, parce qu'il y a tellement pas de recherche.
Actuellement, la vision de Thomas ne perçoit que la lumière. Il parvient difficilement à entendre et ne peut pas se déplacer par lui-même. Malgré toute l'énergie déployée par les parents et ce que réserve l'avenir pour Thomas, Marie-Michèle souligne profiter de chaque moment passé avec lui.
Il sourit, il est heureux, il a pas de l'air d'avoir de mal non plus. Fait que ça, c'est déjà un gros positif. On profite de tous les petits bonheurs, on se colle. Puis je pense que c'est juste ça qui est important. Dernièrement, on a eu des mauvaises nouvelles par rapport à Thomas. On sait qu'il n'y a pas de traitement. C'est agressif. Je me dis que tout ce qu'on aura fait, peut-être qu'il y a des parents dans une couple d'années qu'ils ne seront pas obligés de passer à travers de ce qu'on vit en ce moment parce qu'on a aidé à la recherche.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On prend un instant pour vous rappeler que l'émission Point de vue que vous écoutez est une production du Fonds canadien de radio communautaire, le fonds qui a pour mission de soutenir et de représenter le secteur des radios communautaires et de campus auprès des différentes instances gouvernementales et des radios privées. Le FCRC les soutient aussi financièrement au travers de multiples programmes tels que Radiomètre, mais aussi ici via l'initiative de journalisme local financée par le patrimoine canadien. Nos journalistes qui ont toute liberté éditoriale sont embauchés à travers le pays. Ils œuvrent au sein des radios membres des trois grandes associations radiophoniques au pays, soit l'Arc du Québec, l'Arc du Canada et la NCRA. Elles regroupent à elles trois près de 200 radios canadiennes. L'initiative de journalisme local, donc, du Fonds de la radio communautaire finance pour l'heure le travail d'une trentaine de journalistes au pays et bientôt plus. Ils travaillent en français, en anglais et en espagnol dans plusieurs provinces et territoires canadiens. Et parmi eux, ceux qui ont précédé, Maxime Gauthier et Marie Hillès, mais aussi Imelda Ouafak, qui est en poste à Falaire, à Rivière-de-la-Paix. Enfin, elle couvre le territoire de Falaire-Rivière-de-la-Paix en Alberta. Imelda, qui nous parle aujourd'hui du Café Nord-Ouest, lequel célèbre le mois de la francophonie, comme on le fait en mars partout au Canada et à travers le monde. Le Café Nord-Ouest, le café en majuscule, organise des activités en français dans la ville de Falaire et notamment la Foire de la famille. Mais depuis la COVID-19, le comité organisateur a dû modifier sa programmation pour mettre en place des activités structurées en fonction des groupes d'âge, lesquels se tiendront tout au long du mois de mars. Les détails avec Imelda Ouafak.
Dans le cadre de la célébration du mois de la francophonie, le Café Nord-Ouest organise des activités en français au sein de la communauté. Habituellement, au mois de mars, le Café Nord-Ouest organisait la Foire de la famille, mais cette année, les choses sont différentes. Pour cause, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 a modifié le concept. Anita Antil, trésorière.
Historiquement, là, typiquement, le Café Nord-Ouest, on a animé une activité qui s'appelle la Foire de la famille au mois de mars depuis plusieurs années. Et après 2 ans de COVID, l'activité avait un peu, on ne pouvait plus la faire. Donc cette année, au lieu de faire une grande foire d'une journée pleine, on a décidé de séparer nos activités sont plus petites, ils sont plus concentrés à des différents groupes d'âge, toujours en français, et on suit le thème de la famille en santé cette année, c'est le thème qu'on s'est donné.
Des activités telles que les aventures avec frigo sont en cours depuis l'entame de ce mois. Cette activité vise à développer le vocabulaire des enfants surtout et à mener les familles à faire des exercices ensemble. Anita Antil nous explique ce jeu.
Donc la première activité a eu lieu. En fait, on a lancé la première activité vendredi le 3 mars. Ça s'appelle c'est les aventures avec frigo. Donc on a un petit personnage, un petit bonhomme de neige qui a été affiché au travers le village de Falaire.
Oui.
Et les enfants et les familles ont une tâche d'aller découvrir, donc un, les trouver. Il y en a 12, je crois, 12 ou 14. Et les frigos ont comme une bulle où ils parlent, comme une bulle pour parler. Puis il y a un mot dans la bulle, mais le mot est l'ordre des lettres a été mélangé. Donc la tâche est de réorganiser les lettres pour faire un mot qui a du sens.
D'accord.
Donc les familles nous envoient leurs réponses par email et leur nom va dans un tirage on a un tirage à la fin du mois pour tous les enfants qui ont participé. Donc ça, c'est la première activité qu'on a lancée, puis ça dure le mois entier. Les entreprises qui sont comme nos partenaires dans cette activité sont toutes des entreprises où on peut se faire servir en français dans la communauté.
À côté de cette activité, un atelier sur l'amélioration de la performance physique en sport s'est tenu mercredi le 8 mars pour les élèves de la 7e à la 12e année. Il était important de rappeler aux élèves et certains parents présents l'importance de pratiquer du sport.
Donc mercredi le 8 mars, l'activité de santé en famille était plus concentrée pour les jeunes secondaires et leurs parents s'ils voulaient venir. Et c'était, on a fait venir une entraîneur personnelle, une entraîneuse personnelle, pour venir faire un entraînement de groupe sur la santé physique, l'importance de notre santé physique. La dame qui est venue s'appelle Josée Pellé et elle est venue faire un entraînement pour les jeunes de 7 à 12 ans. Elle pouvait prendre 30 jeunes dans sa classe, puis on a rempli les 30 espaces très, très rapidement. Ça s'est super bien passé.
Après le mois de la francophonie, d'autres activités seront organisées par le Café Nord-Ouest tout au long de l'année dans l'optique de pérenniser cette langue. Anita Antil parle des objectifs de l'association.
Et de animer des activités en français pour la famille, pour les gens de tous les âges, dans la communauté, mais à l'année longue.
Les participants du jeu Concours Frigo ont jusqu'au 31 mars pour envoyer leur réponse. En guise de rappel, le Café Nord-Ouest est un organisme qui se charge d'animer des ateliers pour les familles en français. C'était Imelda Wafek pour l'initiative de journalisme local.
Sans la voix, à Plamondon, vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. canada-info.ca.
La compagnie Minerai de fer Québec, ou MFQ, opère deux usines dans la région de Fermont, Québec, une région nordique où vivent de nombreuses communautés autochtones et surtout Innu. Et pour témoigner d'une nouvelle ère de partenariat économique entre nouvelles et anciennes communautés, l'usine du lac Bloom porte dorénavant un nom Innu, celui de Chinanu, qui se traduit en langue Innu par « nous autres ensemble ». L'usine, qui est tout de même en fonction depuis mai 2022, affirme vouloir honorer et faire valoir ses relations avec ses partenaires des Premières Nations. L'idée a été proposée par deux employés de la minière, Fernand Michel et Yannick Pilote. Pour inaugurer officiellement la nouvelle dénomination, de grosses pointures du gouvernement provincial et caquiste de François Legault ont fait le déplacement, soit le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, c'est aussi un super ministre qui a d'autres mandats, et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Et c'est avec ce dernier et dans le vent que s'entretient notre journaliste à Fermont, Élisabeth Séguin.
Bien, ma première réaction, c'est enfin pour moi, enfin une présence à Fermont. Je le souhaitais vivement depuis mon arrivée en poste. Vous savez, j'ai fait la tournée des 55 communautés, incluant les 14 villages nordiques. Et je savais qu'il y avait une bonne présence autochtone ici, ne serait-ce que par les terres, par les habitudes de vie des Innus. Alors aujourd'hui, j'en suis très fier. Et d'avoir le nom Chinanu, qui veut dire « ensemble, tous ensemble », bien, moi, ça me déçoit parce que j'aurais dû y penser il y a un an et demi quand on a fait notre grand cercle économique puis on a dit qu'il faut que les Premières Nations et le gouvernement du Québec on fasse la relance économique du Québec ensemble, tous ensemble. J'aurais dû dire Chinanu. Blague à part, je suis vraiment très, très, très heureux. Très heureux de voir aussi la façon dont se développe Fermont présentement, la présence des Innus. Je ne veux même pas dire la présence, je veux dire qu'ils font partie de cette relance-là puis on le sent. Vous savez, je connais pas grand-chose du côté des Premières Nations, mais une chose que je connais très bien, c'est leur capacité à détecter ce qui est faux. Et si c'était des apparences, si on faisait des opérations de relations publiques, rapidement, ils l'auraient détecté. Alors, on voit que c'est profond, c'est ancré. Il y a cette volonté-là. Je parlais avec Dave ce matin, Dave Volant, puis qui m'expliquait bon, son rôle avec la compagnie, ce qui a été fait aussi pour la journée Vérité et Réconciliation. Puis on voit que c'est du vrai, on voit que c'est une valeur qui est profonde dans cette compagnie, mais je vous dis, dans cette région aussi. Alors, je suis vraiment content d'être ici. J'étais avec mon collègue Pierre Fitzgibbon. On a fait quelques visites pour parler de développement économique, développement énergétique aussi. Je dirais qu'il faut se rappeler que dans notre gouvernement, on a le privilège de travailler avec la première femme Innu qui est ministre à l'Assemblée nationale. Et ça se sent. Ça se sent. On voit le changement que ça apporte. On voit le sentiment de fierté que ça apporte aussi. Alors, très heureux. C'est une longue réponse à votre question, mais vraiment très heureux d'être ici.
Minerai de fer Québec se démarque de par cette façon d'inclure les Innus, les Premières Nations, dans tous les projets qu'ils entreprennent. C'est aussi un projet qui a été bien lancé par le gouvernement du Québec, ce projet de Minerai de fer Québec. Donc, j'imagine que vous êtes fiers là, de pouvoir voir cette continuité. Vous parlez de relance économique et tout ça. Minerai de fer Québec fait partie, j'imagine, des bons exemples à suivre pour le reste de la province?
Oui, vous parlez de bons exemples. Puis c'est une autre chose que j'ai appris avec le temps, il ne faut pas faire du mur à mur. Et c'est un bel exemple de voir comment on peut travailler ici. Tantôt, je le mentionnais, on a développé des formations qui sont délocalisées pour être opérateur de machinerie lourde, donc entre autres avec Pacoa, avec Unamen, si on l'a travaillé avec le CREA. Vraiment intéressant de voir qu'on peut faire de la formation ailleurs, parce que souvent, de délocaliser les membres des communautés pour faire de la formation, mais c'est extrêmement exigeant pour eux, puis insécurisant aussi. D'un autre côté, ce qui est intéressant, on a inauguré les premières résidences autochtones à proximité du cégep de Sept-Îles. C'était la phase 1, et c'est une réalité Innu. Hein. Quand on va sur place, on voit vraiment un campement Innu pour ces résidences-là qui vont jusqu'à des 6,5. Donc, la famille au complet peut résider à cet endroit-là. Souvent, ce sont des jeunes femmes qui retournent à l'école avec leur famille, conjoints, enfants, même une garderie, un CPE. Fait que vraiment un système qui est repensé. Prochain, c'est Trois-Rivières. On est déjà à le bâtir. J'ai hâte de l'inaugurer, ça aussi. Suivra Québec, Chibougamau, puis deux autres endroits à déterminer. Fait que vraiment, la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que ça prend plusieurs solutions, ça prend plusieurs choses pour corriger 400 ans d'histoire. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Et j'étais content, en arrivant ici, d'avoir entendu par des membres de la communauté qui avaient vu la publicité qu'on a lancée. On gagne à se connaître davantage. Et c'est exactement ce qu'on voulait, cette publicité qui a été développée par une membre de la communauté Mohawk de Kanasatake, Mme Boileau-Bunchpil, qui est merveilleuse, la publicité, j'en suis tellement fier, parce qu'il y a deux auditoires. Il y a les communautés, il y a les Premières Nations, les Inuits, qui voient la publicité, qui en sont fiers. Pour l'ensemble des Québécois, c'est de se rappeler à quel point on se connaît pas assez.
Les activités de la compagnie Minerai de fer au lac Bloom au Québec devraient se poursuivre jusqu'en 2040. Le gouvernement du Québec en est d'ailleurs actionnaire à plus de 8 %. Le projet minier et son agrandissement ne font cependant pas la joie des environnementalistes. MFQ souhaite extraire annuellement 15 millions de tonnes de fer de haute qualité, mais pour prolonger la durée de vie du projet, un moteur économique d'ailleurs pour la région de la Côte-Nord, la société doit agrandir son parc de résidus miniers et utiliser 156 hectares de lacs et de plans d'eau pour y entreposer des centaines de tonnes de résidus. Ce projet pourrait créer un dangereux précédent, estime André Bélanger, directeur de la Fondation Rivière, cité chez nos confrères IJL du journal Le Nord-Côtier. Jusqu'à quel moment l'environnement sera protégé des visées extractionnistes des compagnies, ajoute M. Bélanger qui poursuit. Ils vont mettre 10-15 millions en compensation pour faire 100 millions de profits supplémentaires. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs Marie Hillès, Imelda Wafak, Elisabeth Séguin et Maxime Gauthier, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao.